France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
960, 959, 958, c'est à l'envers, mais pas reculons que Denis Pascal a enregistré les trois dernières sonates de Franz Schubert, troisième et dernier volume qui vient de paraître sur le label La Musica, avec en plus les trois Klavierstücke Deutsch 946, une sonate antépénultième, donc c'est comme ça qu'on dit, dans laquelle le pianiste voit une puissance dramatique, une architecture vertigineuse. Comment le pianiste et professeur très recherché au CNSM de Paris a-t-il abordé cette musique? Comment on concilie le respect du texte, la poésie? Quelques mois après un autre disque consacré au beaucoup moins connu Jean Wiener, Denis Pascal est notre invité ce matin. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Pourquoi cette sortie dans cet ordre inverse? D'ailleurs, y a-t-il un ordre de ces trois sonates qui ont été composées quasiment en même temps, quelques semaines avant la mort de Schubert?
Bien sûr. Alors, ça arrive avec quelques œuvres de Schubert, comme les deux trios, par exemple, qui, voilà, le premier et le deuxième, et inversement. Le concerto de Chopin, c'est la même chose. À mon avis, c'est quand même la plus dense des trois. Alors, je parle pas d'un point de vue dramatique, mais même pianistique. Et pour moi, personnellement, c'était la moins idiomatique, la moins schubertienne des trois. Voilà, peut-être c'est peut-être une erreur, mais en tout cas, la grande sol majeure, la sonate fantaisie ou la si bémol, les moments où les temps sont un petit peu dilatés, les moments où on a le temps d'écouter ou peut-être de se voir en train d'écouter. Pour moi, c'était Schubert, enfin à l'époque. Et donc, j'avais ce sentiment-là. Et c'est la violence un petit peu à la fois de 958 et d'ailleurs une partie des Klavierstücke me faisait dire qu'il fallait attendre un petit peu. Voilà.
Elles sont différentes, en tout cas, elles ont chacune leur caractère, ces trois sonates.
Oui, alors évidemment, elles comprennent parfois le même matériau, même motif, qui sont déclinés de manière différente. Voilà, théorie dit que voilà, c'est le temps est dilaté, le temps se stoppe un petit peu. Il y a plus de lumière, je dirais, dans la toute dernière, enfin pour moi. Et la plus noire, la plus dramatique, c'est l'antépénultième, effectivement.
La 958, d'ailleurs, voilà, c'est ça. Vous parlez de lumière, mais dans le livret, vous parlez même d'une couleur rouge sombre. Qu'est-ce qui est rouge sombre ici?
Alors, rouge sombre, pour moi, c'est pas le sang, non, c'est mi bémol, je vous rassure. Mi bémol mineur ou do mineur, c'est rouge. Et plus sombre, mi bémol mineur, pour moi, voilà, c'est personnel. Mais l'évocation de ces tonalités, c'est important parce que la 959, la majeure, j'avais évoqué, oui, un bleu glacé, ou un bleu,
Bon, et ces couleurs-là, vous les voyez quand vous jouez?
La transparence du la majeur, oui, c'est sûr. Et je peux pas m'empêcher, oui, le début de Klavierstücke, je sens. C'est-à-dire, on sent une couleur, on la voit pas, parce que quand on parle de couleur avec la musique, on la voit pas, en fait. On a une espèce de vibration qui correspondait peut-être à une fréquence de lumière. Je sais pas, j'en sais rien. Moi, je parle de synesthésie, où il y a pas de philosophie là de ça, mais disons que, voilà.
Schubert en couleur avec Denis Pascal, notre invité, jusqu'à 9h.
Thank you.
revient.
Ça revient.
La reprise, le premier mouvement de cette sonate Deutsch 958 de Schubert, Denis Pascal, notre invité. C'est sur ce disque qui paraît chez La Musica. Alors, qu'est-ce qui la caractérise, cette sonate, cette musique en rouge sombre? C'est la plus violente?
Ah oui, c'est la plus violente. Dans les contrastes, dans l'écriture du piano, je parlais de l'évocation un petit peu des paradoxes un petit peu dans l'écriture, dans l'introduction, et puis non, c'est la plus violente, ça c'est sûr, et c'est extrême même, je dirais, dans l'écriture pianistique, notamment dans le final.
Là, dans ce qu'on entend, il y a presque un côté encore un peu beethovenien.
Oui, alors évidemment la tonalité do mineur, le trois temps un petit peu, ça a des réminiscences du thème des 32 variations, pourquoi pas, oui. Mais c'est quand même évidemment autre chose. Évidemment, il y a un lien entre Schubert et Beethoven, mais je pense que, disons, le flux expressif, le flux musical de Schubert, il est tellement différent. C'est d'une autre nature.
Des réminiscences quand même. Là, vous me disiez en écoutant le thème qu'on vient d'entendre, on le retrouve un peu.
On le retrouve quasiment presque en entier, en tout cas dans la distribution des intervalles, au début de la 960, effectivement.
Dans le livret, vous parlez d'œuvre de jeunesse qui est vraie et paradoxale à propos de cette musique de Schubert.
Oui, parce qu'en fait, toute l'œuvre de Schubert est une œuvre de jeunesse. Alors, ça ne parle pas de la maturité du compositeur, ça parle justement de son âge, juste de son âge. Voilà. Et donc, je pense qu'il n'avait pas forcément la conscience qu'il écrivait les trois dernières sonates au moment où il les écrit. Effectivement.
Il est quand même très malade quand il les écrit.
Oui, mais bon, la souffrance, la maladie font partie un petit peu de sa vie. Et peut-être qu'il y a une urgence, effectivement. En 1828, 27, 28, il y a une urgence dans l'écriture. On ne sait pas, objectivement, on ne sait pas même comment il a eu le temps d'écrire toutes les notes qu'il a écrites. Peut-être que il y a des théories un petit peu fumeuses sur le fait que son traitement pour sa maladie, etc., ont fait que son esprit est allé plus vite, moins vite, ou a été génial, etc. Bon, peut-être, pourquoi pas. D'aucuns vont parler de l'avant-infection et après-infection. Bon, tout ça, moi, ça, oui, pourquoi pas. De toute façon, je pense qu'un créateur, il est l'objet aussi des contingences qu'il vit. Et bon, alors, si ça le tue pas, eh bien, il crée, c'est parfait. Non, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, la souffrance et la maladie font quand même partie de la vie de chacun. Hein. Et moi, je suis persuadé qu'effectivement, c'est œuvre de jeunesse, oui.
Et la recherche de la lumière qu'on retrouve à la fin de ces sonates, d'ailleurs.
Oui, je pense que, oui, en plus de ça, l'idée que Schubert n'est pas désespéré. Schubert, il écrit, donc il va vers la lumière, forcément. C'est le paradoxe. Donc, il ne faut pas s'habiller en noir pour jouer Schubert.
Denis Pascal, vous parliez d'urgence. Il n'y avait pas eu d'urgence pour les enregistrer. Vous avez pris votre temps. À quel moment vous êtes dit, ça y est, c'est le moment?
Eh bien, après une série de concerts, un pré-enregistrement aussi de la 960. Enfin, j'avais déjà abordé cette œuvre, essayer d'enregistrer un petit peu, travailler là-dessus. Et puis le projet de faire les trois, et de pas simplement les trois, mais de rayonner autour de ces trois œuvres avec la sonate 784, les impromptus, plus tard les moments musicaux, plus tard le Wanderer Fantasy. Voilà, c'était un projet. Et c'est aussi une recherche. Et disons que ça. Schubert. Ça remplit quand même une partie de... Enfin, ça pose des questions personnelles, je trouve existentielles un petit peu, chez un musicien.
Vous parlez de vertige?
Oui, je parle du vertige, oui. Le vertige parce que dans la sonate, la Nut mineur 958, il y a cet aspect de course à la fin, dans le final. de course, de longueur, parce que les développements sont longs dans le dernier mouvement. La violence des contrastes, l'enchaînement rapide entre des modes majeurs, mineurs, une expression totalement différente, tout ça, ça donne un peu le vertige. On a l'impression que c'est un condensé émotionnel, un petit peu de musique. Et voilà. Et le vertige, j'en parle aussi parce que le plus beau des vertiges, c'est les mouvements lents de ces trois sonates. Voilà.
Sonate de 1958 de Schubert, Denis Pascal, c'est sur votre disque. Et donc, il y a les mouvements lents. Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous et celui-ci ?
Ça représente un mouvement lent, c'est un abandon. Il y a une évolution entre ces trois mouvements lents, la bémol majeur, fa dièse mineur, do dièse mineur. Paradoxalement, celui qui écrit en tonalité majeure, la bémol, donc celui qu'on vient d'entendre, il est peut-être le plus tendu, le plus halluciné, le plus... il y a ce contraste entre la bémol majeure, entre la tendresse, cette tonalité, et puis ce qui va se passer dans les épisodes au milieu, qui sont extraordinaires. Et puis, ils sont moins sur un motif répété, comme une espèce de futur tintinabulisme, qu'on trouve dans les sonates qui vont suivre. C'est vraiment un cantabile, vraiment classique, on va dire. Plus tard, il y a une formule qui plaît à tout le monde, effectivement, qui est une espèce de mouvement perpétuel, de balancement, et qui effectivement fait que, comme dans le quintet à deux violoncelles, ça accroche dramatiquement, et plus peut-être.
Qu'est-ce que vous dites, Denis Pascal, à vos élèves quand ils abordent Schubert et contre quels écueils les mettez-vous en garde ?
Alors, il faut pas les préparer à Schubert, mais disons qu'il y a des, il y a des référents à Schubert. Il y a un référentiel qui est pour moi celui de la voix. Alors, je pense que d'une certaine manière, Schubert, il est pas vrai, enfin, il est pianiste, mais c'est pas un virtuose. Il touche les cordes aussi, tout ça, mais pas non plus. Et par contre, il a eu cette chance et cette trame comme ça de pouvoir avoir une éducation privilégiée parce qu'il avait une jolie voix jeune et que cette voix chantée, ce flux continu un petit peu émotionnel. Intérieur quoi, ça fait la différence, ça fait la différence avec d'autres compositeurs, c'est-à-dire que ça reste dans la tête, ça reste dans le cœur, ça reste dans l'oreille Schubert, parce qu'on peut parfois fredonner, chanter un petit peu les choses, et c'est un peu la différence avec les expérimentations beethoveniennes ou même la clarté ou l'électricité qu'on a chez Mozart. Lui, il se laisse aller un petit peu à la douceur, justement, du chant. Voilà, du chant, la chanson.
Denis Pascal, grand pianiste, grand chambriste et professeur. Mais alors, on se bat pour entrer dans votre classe au CNSM de Paris.
Mais non.
Si, cette envie d'enseigner, de transmettre, d'apprendre. Le mot est peut-être moins à la mode aujourd'hui. On dit transmettre maintenant, mais ça vous est venu comment?
Disons que... Peut-être de mon expérience personnelle, c'est-à-dire d'essayer de comprendre, d'essayer de comprendre en fait, et d'affranchir un petit peu le musicien, de sortir de peut-être de préjugés, de démonter les choses, d'analyser. Je sais pas comment dire. En plus, j'ai eu la chance de rencontrer de toute façon des pédagogues particuliers. Bon, j'ai étudié avec Pierre Sancan au CNSM de Paris. Qui était en tout cas à mon époque un rêveur et quelqu'un qui avait beaucoup réfléchi sur la transmission et sur comment faire évoluer la relation avec l'instrument. Ok, il avait bien compris que le geste pouvait éventuellement libérer la pensée. Enfin bref, il avait une approche un petit peu comme ça, instinctive chez lui. Et puis quand même d'avoir travaillé beaucoup et rencontré travaillé beaucoup avec Georgi Shebok ou joué beaucoup avec Janusz Starker ou rencontrer aussi leur homologue pour le chant, Vera Roja, ça, tous ces gens-là qui ont travaillé, qui sont vraiment des pédagogues, parce que il y avait un devoir de transmission au début du XXe siècle, il y a des écoles comme ça en Europe centrale qui ont été créées, parce que être musicien, c'est être meilleur, c'est être un bon citoyen, c'est être un bon penseur. Et bien voilà, ça m'a passionné, je pense qu'il y a d'autres raisons aussi, un peu plus compliquées, c'est de mettre en perspective ce qu'on peut produire aussi sur scène. D'une certaine manière, ça aide d'enseigner beaucoup.
Pierre Sancan, si on remontait le temps, Pierre Sancan, 1974.
J'ai eu la chance d'avoir, comme vous le savez, de très bons élèves qui sont déjà célèbres.
Oui.
Et je trouve miraculeux d'ailleurs parce qu'ils sont très doués. Mais comme on apprend beaucoup de ces élèves, je me répète, je trouve aussi, si je me permets de faire une petite critique, je trouve qu'ils devraient avoir une plus grande culture. C'est-à-dire que dans notre temps, nous faisions automatiquement, même sans être doués, nous faisions l'harmonie, la fugue, le contrepoint, on allait jusqu'au prix de Rome. Maintenant, ils ont de tels dons qu'ils commencent la carrière presque immédiatement. Et naturellement, il manque un petit peu peut-être de l'ordre dans les pensées qui font les grands interprètes, n'est-ce pas?
Vous partagez 50 ans après... ce sentiment de votre professeur, de
dire. Oh, bah oui, bah évidemment.
Encore
évidemment.
Plus aujourd'hui?
Alors peut-être pas encore plus, mais disons que les choses sont, paradoxalement, elles sont encore plus compartimentées. C'est-à-dire que parfois, les artistes commencent une carrière, après se rendent compte qu'il faut peut-être travailler l'écriture ou la composition. C'est vrai qu'il y a un package qui était fait à l'Académie Liszt à Budapest où on faisait la composition en même temps que l'instrument. Bon, Pierre Sancan est aussi une exception. Alors c'est un musicien, disons qu'il a commencé la musique assez tard. Modestement disons, et qu'il s'est plongé dans l'écriture tout de suite, forcément. Et ça me paraît logique en fait, d'essayer de comprendre un langage quand on commence la musique à un moment où on est presque plus un enfant, voilà, 11-12 ans. On est autonome, en vérité, on a une appétence pour ce domaine-là et on va essayer de comprendre pourquoi. Voilà, on est happé par quelque chose et quand même, avant de se laisser manger, on essaie de comprendre par qui on va être mangé. Voilà.
un disque peut en cacher un autre. Il y a quelques mois, il y a un autre disque qui est sorti que j'ai beaucoup aimé, consacré à un autre compositeur beaucoup moins connu, reconnu que Franz Schubert, c'est Jean Wiener. Sonatine syncopée de Jean Wiener que vous avez enregistré, Denis Pascal, c'est même le deuxième disque que vous lui consacrez. Pourquoi cette passion?
Alors,
est-ce une passion?
Alors, est-ce qu'on peut être passionné de Jean Wiener? Oui, c'est une musique. D'abord, c'est un grand musicien d'une sensibilité extrême. Et dans les quatre petites pièces radio, c'est mes œuvres préférées, notamment la première qui s'appelle Histoire de France. On a toute l'échelle du cœur de la musique. On peut dire qu'il y a des compositeurs plus ou moins musiciens, plus ou moins. Rond avec l'expression, et c'est Jean Wiener en fait partie. Et Jean Wiener, pour moi, il a aussi cette mélancolie, cette tristesse aussi qui sied, c'est comme il le décrit lui-même, qui sied à Paris en fait, et à toute l'époque qu'il a défendue dans les années 20, les années 30. Et en fait, le disque, ça part des années 20 quasiment à sa mort, les moments musicaux.
Un homme heureux mais plein de nostalgie et de douceur, écrivez-vous dans le livret à son sujet. Ça pourrait être vous aussi?
Douceur, ça dépend déjà. Et nostalgie, pas trop, non. Non, moi je suis plutôt vers la suite.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
Denis Pascal est notre invité ce matin à 8h55, un disque Schubert qui vient de sortir. La suite, c'est aussi plein de concerts, une nuit américaine en duo avec Paul Lai à Saint-Pierre-de-Léron le 10 mai, le 16 mai, c'est le trio Pascal à Nantes, 4 au 8 juin, votre festival, Ton Voisin à Albi, et puis on vous retrouvera aussi en Corse du 17 au 24 août aux rencontres de Calenzana. C'est l'heure d'ouvrir votre diaporama et d'écouter sonore et d'écouter des musiques et de nous dire ce qu'elles vous évoquent. Première musique.
Alors, ça m'évoque évidemment la littérature. Hein. Ça m'évoque mon accroche avec la musique par la littérature. Évidemment, une émission de Bernard Pivot qui s'appelle Apostrophe. Et j'ai pas appris le piano, mais en disant que je suis tombé amoureux du piano avec les génériques, le début et la fin de cette émission. Moyennant quoi, je me suis fait ma culture littéraire en écoutant l'émission pour attendre la fin. Voilà. Et c'était une version avec Byron Janis. Voilà. Pour moi, c'est le piano.
Premier concerto pour piano de Rachmaninov que vous avez joué ?
Non, moi j'ai joué 2 et 4. Voilà, j'ai pas fait.
Deuxième musique.
Une des plus grandes chanteuses et musiciennes qui soit, c'est Virginia Zeani dans Poveri Fiori de l'opéra Adrien de Lecouvreur. Et c'est l'exemple d'une musicienne absolue, à la fois magnifique d'instruments, de dons de soi. Et c'est une interrogation pour moi de l'intensité, enfin, ou une frustration d'instrumentiste par rapport à l'intensité qu'on peut trouver dans certains répertoires. Mais je ne suis pas, à proprement parler, un fou d'opéra. Je suis un fou de musique. Et l'idée, c'est de s'interroger sur l'implication d'un artiste dans son art. Et je pense qu'elle est un exemple, un des plus hauts exemples qu'on puisse trouver. Voilà.
On tourne une page.
Bon, alors début trio de Ravel, j'imagine que c'est avec Aurélien Svetlin, c'est ça?
Et vous?
Et moi, évidemment. Oui.
Le trio Pascal.
Le trio Pascal. Alors, le trio Pascal, c'est Aurélien et Alexandre Pascal. Là, c'était la première émergence, enfin, la première mouture un petit peu. Et donc, c'était autour d'un concert pour le centenaire de la création du trio. Et ce concert a eu lieu à Gavau, puisqu'il a été créé à Gavau. C'était le 28 janvier 2015. Et c'était une matinale d'ailleurs, je pense, qu'on avait faite ici. Voilà. Voilà. Et puis c'est quand même Ravel, un des compositeurs certainement favoris, et cette œuvre en particulier.
Ouais. Et on va se quitter avec ça.
Voilà, grand choral à la nuit américaine. Voilà, et ça fait partie aussi du programme que je partage avec Paul.
Le 10 mai.
Voilà, le 10 mai. Et Paul est un ami, un ancien étudiant aussi, pareil, et un magnifique et extraordinaire jazzman.
À Saint-Pierre de l'Hérault, mais qui n'a pas été étudiant de Denis Pascal. Merci, disque Schubert qui vient de sortir. Un grand merci d'être venu dans Musique Matin.
À réécouter sur francemusique.fr.